VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 29 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidulia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
À Istanbul, en Turquie, une trentaine de personnes tuées dans un triple attentat suicide à la bombe.
En Côte d'Ivoire, un ex-chef de milice pro-Gbagbo a accusé hier l'ancienne première dame ivoirienne d'avoir financé son mouvement.
En République démocratique du Congo, ouverture hier à Lubumbashi du procès des 32 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide.
Les dirigeants des pays de l'UE se retrouvent ce matin à Bruxelles pour la première fois sans le Royaume-Uni. Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au moins 36 personnes, dont des étrangers, ont donc été tuées mardi soir dans un triple attentat suicide à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul. Il s'agit là de l'attentat le plus meurtrier dans la métropole turque qui a déjà été visé 3 fois cette année. Jean-Roger Bion fait le point.
Ce bilan de 36 mois a été donné par le premier ministre Binali Yildirim devant la presse lors d'une visite sur les lieux de l'attaque. Selon lui, les indices pointent Daesh, acronyme du groupe État islamique. Le ministre de la Justice Beki Bozdag a précisé que 147 personnes avaient été blessées. Selon les autorités, des explosions ont d'abord eu lieu à l'entrée du terminal des vols internationaux vers 22h locales, 19h GMT. 3 assaillants ont mitraillé des passagers ainsi que des policiers en faction. Une fusillade a éclaté, puis les kamikazes se sont fait sauter. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme dans un communiqué. Cette attaque qui s'est déroulée pendant le mois du Ramadan montre que le terrorisme frappe sans considération de foi ni de valeur, a dit le président turc.
Jean-Roger, les réactions ont été immédiates dans les grandes capitales du monde.
Le président français François Hollande a condamné fermement un acte abominable, tout en appelant lui aussi à un renforcement de la coopération internationale en matière de lutte anti-terrorisme. Ici à Washington, un porte-parole de la Maison-Blanche a condamné ces attaques abominables, tout en promettant le soutien des États-Unis à Ankara. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné l'attaque terroriste et a lui aussi réclamé une coopération internationale accrue. Abdullah Aga, un expert des affaires de sécurité et de terrorisme interrogé par CNN Turk, a privilégié la thèse d'un attentat djihadiste. Cela ressemble beaucoup à leur méthode, a-t-il dit, en référence aux attaques survenues dans l'aéroport et le métro de Bruxelles. L'aéroport de la capitale belge, frappé le 22 mars dernier, a d'ailleurs adressé ses condoléances à la Turquie sur Twitter.
Merci Jean-Roger Bion.
Le reste de l'actualité, Anne.
Au Burkina Faso, le général Patrick Betrou, commandant de la force Barkhane, est allé hier après-midi faire le point sur la situation sécuritaire dans la sous-région avec le président Roch Marc Christian Caboret. Le général français a dit à notre correspondant Issa Napon, je cite, « Ce que j'observe depuis l'année où je suis ici, j'ai remarqué que globalement, la capacité de nuisance des terroristes a été diminuée. »
En Côte d'Ivoire, suite du procès de Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité, hier, un ex-chef de milice pro-Gbagbo a accusé l'ancienne première dame d'avoir financé son mouvement, Claire Morin-Gibourg.
Le détenu Moïse Harold Metch est arrivé menotté à l'audience à la cour d'assises d'Abidjan. Celui qui se fait appeler commandant Outel ou colonel H s'est présenté comme le chef du GPP, le groupement des Patriotes pour la paix, une des nombreuses milices qui sévissaient sous le règne de Laurent Gbagbo. Le GPP avait été créé pour le maintenir au pouvoir, a expliqué le témoin à charge, assurant que l'ex-première dame était leur financière. L'ex-milicien a expliqué hier, pendant près d'une heure, le rôle et les actions de son mouvement. « Notre rôle était de réprimer les manifestations de l'opposition pro-Ouattara », a-t-il déclaré, ajoutant que les membres du GPP disposaient d'autorisations de port d'armes qui leur permettaient d'intimider les opposants. Madame Gbagbo, qui avait déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, comparaît depuis le 31 mai, accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Et puis un premier groupe de 35 réfugiés de la crise ivoirienne sur les 7000 en Guinée sont arrivés mardi soir à Abidjan, accompagnés d'un représentant du HCR. Ils ont été accueillis par la ministre ivoirienne de la Cohésion sociale, Mariatou Koné. Selon le HCR, plus des deux tiers des 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont déjà rentrés chez eux.
En République démocratique du Congo, le procès des 32 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide s'est ouvert hier à Lubumbashi. Ce procès est en rapport avec des affrontements en 2013 au Katanga et de Isangu.
Après trois renvois successifs, la cour d'appel de Lubumbashi a siégé hier en audience foraine à la prison Kasapa de Lubumbashi où sont internés les accusés. L'audience qui a duré près de 4 heures a été consacrée à la lecture des actes d'accusation et à la présentation des 4 premières victimes. Au total, près de 80 personnes sont appelées à témoigner. Ces procès, qui devraient durer plusieurs mois, avaient débuté en août 2015. Il avait été programmé pour le 16 mai, mais avait dû être renvoyé pour permettre l'arrivée des premières victimes. Venues de coins enclavés du nord de la région du Katanga et transportées jusqu'à Lubumbashi avec l'aide des Nations Unies. Le nord du Katanga a été le théâtre depuis 2013 des nombreux affrontements entre Bantous de l'ethnie Luba et Pygmées de l'ethnie. Ces combats ont entraîné des tueries à répétition, pillages, incendies et déplacements des populations.
L'hérité dit craindre une reprise, et je cite, « à grande envergure de la guerre avec l'Éthiopie », a déclaré hier son ambassadrice à Paris, Eric Manirakiza.
Anna Simon a hier déclaré que l'Éthiopie a déjà commencé à attaquer. S'exprimant dans une conférence de presse, elle a ajouté que la guerre peut être relancée n'importe quand, à grande envergure. Le 13 juin, les frères ennemis de la Corne et de l'Afrique se sont mutuellement accusés d'avoir déclenché des hostilités à leurs frontières. Même le bilan des combats a été très disputé. Puis le régime éthiopien a mis en garde contre le risque de guerre totale. À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit voter dans quelques jours sur la situation en Érythrée après un rapport accablant. La commission d'enquête a même recommandé une saisine de la Cour pénale internationale. Pour Anna Simon, ce rapport qui accuse Asmara de tous les crimes pourrait servir les intérêts éthiopiens et ses alliés. Selon elle, on diabolise un pays et après on l'attaque, comme ce fut le cas en Irak et en Libye.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants des pays de l'Union européenne se retrouvent ce matin à Bruxelles pour la première fois sans le Royaume-Uni. Ils vont tenter de tracer de nouveaux horizons à un projet européen ébranlé par le Brexit. Mardi, Bruxelles et les dirigeants des 27 pays restants ont accepté de donner un peu de temps au Royaume-Uni pour déclencher formellement la procédure de divorce, tout en martelant qu'ils n'accepteraient pas d'attendre des mois.
Russes et Américains se sont mutuellement accusés mardi de manœuvres dangereuses mi-juin entre deux de leurs navires de guerre en Méditerranée orientale. Le ministère russe de la Défense a accusé le navire américain USS Gravely de s'être approché le 17 juin à une distance dangereuse d'un patrouilleur russe, le Yaroslav Mudry, et dénoncé une violation grossière du droit international. Mais un responsable du Pentagone a affirmé que c'est le navire russe qui s'est approché dangereusement du navire américain et qui a agi de manière non sûr et non professionnel. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro et Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Idrissa.
On attend maintenant les quarts de finale qui démarrent ce jeudi.
Oui, avec un Pologne-Portugal, Cristiano Ronaldo espère égaler le record de Michel Platini. 9 buts dans un euro. En 1984, s'il marque contre la Pologne ce jeudi à Marseille. En face, les Polonais, eux, espèrent que leur vedette, Robert Lewandowski, va enfin se réveiller et marquer. Vendredi, la Belgique joue contre le Pays de Galles. Samedi, l'Italie croise le fer avec l'Allemagne. Et dimanche, au Stade de France, les Bleus affrontent l'Islande.
Il y a un léger mieux chez les buteurs.
L'Euro 2016 était parti sur des bases timides avec seulement 1,92 buts par match en moyenne lors du premier tour. Mais les huitièmes de finale ont relevé le niveau avec 19 buts inscrits en 8 matchs, soit une moyenne de 2,4 par rencontre. Au total, depuis le début de cet Euro, ce sont 88 buts qui ont été inscrits en 44 matchs, soit 2 par rencontre très exactement. C'est toujours moins que la moyenne de buts inscrits lors du dernier tournoi européen en 2012. Elle s'élevait à l'époque à 2,5 buts par match. Scénario incroyable lundi à Nice, l'Islande a réussi un superbe exploit en éliminant l'Angleterre 2-1. En football, il y a les petits poussés et il y a les faux petits poussés, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour, il existe en football deux types de petits poussés. Il y a ceux qui le sont réellement car ils sortent de nulle part et se retrouvent dans une compétition qui n'était manifestement pas faite pour eux. Ils viennent, prennent 3 valises et puis s'en vont. Les Zaïre de 114 et le Salvador de 82 ont été les plus généreux en la matière. L'autre type de petits poussets concerne les faux petits poussets. Ceux-là qui viennent, sournoisement armés, mais sous-estimés par déficit de médiatisation. Le Cameroun de Roger Milla en 1990, imité 12 ans après par le Sénégal d'Eladji Diouf, fera faire les champions du monde sortants de Diego Maradona et de Zinedine Zidane et furent à deux doigts de réaliser le hold-up du siècle. Ce hold-up a été réalisé dans le cadre de l'Euro par la Grèce de Zagoratis en 2004. Plus connu jusque-là pour ses déculottés, à l'image de la raclée prise face au Nigeria au Mondial 94, la Grèce a survolé l'Euro portugais, battant à deux reprises le pays organisateur, éliminant au passage le champion en titre français et le favori tchèque avant de soulever le trophée. L'Euro 2016 nous fait découvrir un nouveau petit poucet dangereux. L'Islande, invaincu jusque-là et qui a laissé sur le carreau l'Angleterre en attendant de retrouver sur sa ligne de mire la France au même stade de la compétition que la Grèce en 2004. Beaucoup disent que l'histoire ne se répète pas, mais certains relèvent qu'il lui arrive de bégayer. C'est à l'Islande de départager les uns et les autres dimanche soir. À demain.
Et oui, Jules Valentin Ngoué vous l'a dit, c'est la grande sensation de cet Euro 2016. L'Islande est désormais parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. Qui sont ces jeunes venus du nord de l'Europe? Notre correspondant à Paris, Christian Panzou, nous présente la sélection islandaise.
Inconnus avant le début de l'Euro, les joueurs islandais sont maintenant les chouchous du public français. Pour preuve, la sélection islandaise est presque épiée. Les curieux sont nombreux tout autour du camp de base à Annecy. Pourtant, le seul nom réellement connu de la sélection est celui d'Eidur Gudjonsson, ancien joueur de Chelsea notamment. Aujourd'hui, Gudjonsson a 38 ans et n'est que remplaçant. La vraie star, c'est bien le collectif, un groupe soudé, composé de joueurs qui évoluent un peu partout en Europe, au Danemark, en Russie, en Norvège ou encore en Angleterre. Leur force, c'est aussi leur confiance, presque inébranlable. Cet Euro est la première compétition internationale à laquelle ils participent. Ce quart de finale est une performance jamais vue pour ce pays d'à peine 330 000 habitants et qui compte seulement 100 joueurs professionnels. Prochain défi, la France, dimanche à Saint-Denis, pour prolonger le rêve et atteindre une inimaginable demi-finale. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Les autres sports, en bref, le tennis.
Le Britannique Andy Murray s'est qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon en dominant sans trembler 6-2, 6-3, 6-4 son compatriote Liam Brody, 235e mondial. Murray affrontera au prochain tour le Taïwanais Lu Yen Sun, 76e mondial. Chez les dames, Serena Williams, la numéro 1 mondiale, s'est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon en battant sans frémir l'inconnu suisse Amra Sadikovic, issue des qualifications en 2-7, 6-2, 6-4. L'américaine va affronter au prochain tour sa compatriote Christina McHell, qui a battu la Slovaque Daniela Antuchova, 7-5, 6-2.
C'était le journal de l'Euro présenté par Jean-Roger Bion.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Conséquence du Brexit, le Parlement européen demande à Londres de notifier au plus vite son départ de l'Union.
Nous parlerons.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, réaction à la dernière déclaration du président Joseph Kabila, promettant des élections et appelant les Congolais à participer à l'enregistrement. La coalition des Congolais pour la transition dénonce une tentative de distraire le peuple congolais et la communauté quant à la date de la présidentielle. Yedi Isango a joint le président de la CCT, Emery Damien Kalwira.
Monsieur Kabila, dans ses propos, il a tout simplement voulu tromper le peuple congolais et tromper à la fois la vigilance de la communauté internationale qui, dans son ensemble, lui demande de se plier aux normes constitutionnelles. Donc, de ce point de vue, Monsieur Joseph Kabila est en train de violer son serment. Monsieur Kabila et ses proches savent très bien que, vu la dimension démographique de la RDC, vu la dimension géographique de la RDC, aucune élection n'est possible au jour d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une chimère. Monsieur Kabila a tout fait pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Il a tout fait pour inféoder toutes les institutions du pays.
Mais il répondait à ceux qui lui demandent de rester au pouvoir en disant qu'il y aurait des élections.
Monsieur Kabila est en train de tout faire pour éloigner considérablement l'élection présidentielle et commencer tout simplement par les élections locales qui vont lui permettre de franchir le cap de décembre 2016 afin d'amender la Constitution et rester au pouvoir autant qu'il le voudra en copiant le modèle des autres dictateurs sanguinaires qui s'accrochent au pouvoir. Nous appelons les Congolais à la vigilance. Donc, ça n'était que des faits d'annonce qui ne riment pas avec la réalité.
Vous parlez de la transition, mais on sait qu'il y a un dialogue qui est en préparation. Il y a un facilitateur qui essaye de convaincre l'opposition, dont une majeure partie n'en veut pas.
Les Congolais ne veulent plus d'un dialogue qui permettra à M. Kabila de rester au pouvoir. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une transition sans M. Kabila.
Ne serait-elle pas aussi une violation de la Constitution?
C'est justement la seule et l'unique voie qui nous reste pour sauver la Constitution et sauver les règles démocratiques au Congo.
Oui, mais sur base de quoi sera mise sur pied la transition que vous exigez?
En vertu de l'article 64 qui donne aux Congolais les prérogatives de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui s'accrocherait au pouvoir en violation de la loi fondamentale. Une transition du salut public qui va permettre aux Congolais de restaurer leur constitution que M. Kabila est en train de vouloir jeter à la poubelle.
Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Les États-Unis et la France ont soutenu Hissène Habré tout au long de son régime. C'est ce qui ressort de deux rapports publiés mardi par l'ONG Human Rights Watch. Ces documents détaillent l'appui de Paris et Washington à l'ancien président tchadien, notamment dans sa prise du pouvoir et sa guerre contre l'invasion libyenne. Pour en savoir plus, Timothée Donangmaï a joint à Londres Reid Brody, porte-parole de Human Rights Watch.
La France a soutenu Hissène Habré surtout militairement. Il y a deux opérations militaires, Manta et Épervier, qui avaient pour objet de renforcer Hissène Habré et de bouter dehors la Libye de Muammar Kadhafi, qui occupait le nord du Tchad. Le soutien de la France et des États-Unis à Hissène Habré est largement dû à cette idée de utiliser Hissène Habré comme bouloirte contre Muammar Kadhafi.
En quoi a consisté l'aide américaine à Hissène Habré?
Bon, les Américains étaient impliqués avant la France. C'est le gouvernement de Ronald Reagan qui a voulu que Hissène Habré prenne le pouvoir. Et la première opération clandestine de l'administration Reagan, c'était de porter Hissène Habré au pouvoir pour donner un coup de nez à Kadhafi. Et les États-Unis ont travaillé étroitement avec l'appareil sécuritaire de Hissène Habré. Il y a beaucoup d'agents de la fameuse DDS, la police politique d'Isnabré, qui était formée aux États-Unis. Il y avait même un fonctionnaire de l'ambassade américaine qui était considéré par la DDS comme le liaison à cette police brutale. On sait aussi que les États-Unis avaient utilisé les soldats libyens capturés par Isnabré. La CIA a formé une petite armée contre Kadhafi dans une base clandestine au Tchad que même les Français ignoraient et qui était destinée à combattre Kadhafi. Mais finalement, Isnabré, il a été conversé avant que ces soldats entrent en action.
Isnabré a été condamné à Dakar. Que disent Washington et Paris par rapport à leur aide passée à l'ancien président tchadien?
C'est intéressant. Les États, il faut dire que l'administration Obama a été un des grands soutiens de la lutte des victimes. Les États-Unis ont fait pression et sur le Sénégal et sur le Tchad pour avancer. Le président Obama a même félicité Macky Sall pour l'initiative de juger Isnabré. Et au moment de la condamnation d'Isnabré, le secrétaire John Kerry avait dit que cette condamnation présentait une occasion pour les États-Unis d'examiner et de tirer des leçons sur la connexion, comme il a dit, des États-Unis avec les événements du Tchad d'Isnabré. Bon, la France a aussi soutenu les Chambres africaines extraordinaires, mais beaucoup plus modestement. Et la France n'a jamais parlé publiquement de son soutien passé à Isnabré.
Reid Brody, porte-parole de Human Rights Watch, joint à Londres.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Au Burundi, la police a annoncé l'arrestation de 7 personnes qui seraient impliquées dans le trafic de femmes et filles destinées au Moyen-Orient, au pays du Moyen-Orient. Certaines sociétés burundaises et étrangères seraient impliquées dans ce commerce de plusieurs centaines de filles burundaises qui seraient passées par l'aéroport international de Bujumbura. Le point avec notre correspondant dans la capitale burundaise, Christophe Kurunziza.
Depuis plusieurs jours, des photos de filles et de femmes en partance d'Oman et d'Arabie Saoudite circulent sur les réseaux sociaux au Burundi. Il y a une dizaine de jours, la police a reconnu avoir arrêté cette personne, dont 3 Burundais et 4 Kenyans. Pour la première fois, la police parle de 11 sociétés impliquées dans ce trafic inhumain, dont 4 Burundaises. Pierre Mourikiye, porte-parole de la police.
La police nationale du Burundi, son unité pour la protection des mineurs, a encore une fois démantelé un réseau de trafiquants des êtres humains. Le réseau était constitué par 7 personnes qui ont été appréhendées, qui se trouvent ici au cachot. La police a également identifié 11 sociétés qui sont impliquées dans ce trafic des êtres humains. 4 compagnies sont ici au Burundi, 4 en Arabie Saoudite, 2 en Oman et une compagnie au Kenya. Ces compagnies et ces présumés auteurs sont accusés d'avoir déjà trafiqué 267 personnes.
Le porte-parole de la police appelle aussi à un travail en synergie de la communauté internationale pour endiguer ce trafic humain.
Il s'agit d'un réseau de criminels qui dépasse les frontières d'un pays. Le combat aussi contre d'autres actions doit être international. À travers les relations internationales que le pays a et également à travers l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol pour qu'on puisse combattre ce phénomène de trafic des êtres humains partout où le réseau opère.
Selon le mouvement citoyen pour l'avenir au Burundi, plus de 2500 filles et femmes seraient parties au Moyen-Orient depuis 2005. Une association qui défend la protection de ces femmes et filles burundaises se réjouit de l'arrestation de 7 personnes impliquées dans ce trafic, mais demande de rester vigilant.
Nous avons accueilli avec grande joie et satisfaction l'arrestation de ces trafiquants d'enfants mineurs vers le Oman et l'Arabie Saoudite surtout. Je propose au gouvernement du Burundi la suspension manu militari immédiate et sans condition de toutes les activités menées au Burundi par les sociétés Royal Services, Intercontact Services Burundi, Samline Burundi, Burundi Recruiting Agency, International Recruiting Company, etc., afin de protéger les enfants burundais.
Une jeune fille qui est récemment revenue de Man affirme qu'elle a été maltraitée et vivait comme une prisonnière. Le mouvement citoyen pour l'avenir au Burundi affirme que certains administratifs à la base et au sommet de l'État seraient d'une façon ou d'une autre impliqués dans ce trafic humain. Mais le porte-parole de la police indique qu'aucune autorité officielle n'est jusqu'à cette date impliquée qui à ce stade des enquêtes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Togolaise, employée comme domestique dans les pays du Golfe, expose l'horreur et le calvaire qu'elles subissent au Koweït, au Liban, en Arabie Saoudite, en Iran et même en Irak. Elles ont fait de troublantes révélations au mouvement Martin Luther King au Togo sur des traitements inhumains, des viols, retenues de salaire, sévices corporels et tant d'autres menaces. Idriss Fall a joint le pasteur Edo Tomi, président du mouvement Martin Luther King à Lomé.
La situation actuelle est tellement déplorable, la situation est hors du contrôle parce que, à l'heure où nous vous parlons, dans les pays du Golfe, les Togolaises ne savent plus à quel sens se vouer et tout est à l'unanimité. Elles veulent rentrer au pays. Elles veulent rentrer parce qu'elles estiment qu'elles n'ont plus leur place dans ce pays, parce qu'elles sont en train de souffrir. C'est la misère, c'est totalement le désespoir. Et ça nécessite une action d'urgence de la part du gouvernement togolais.
Quand vous parlez des pays du Golfe, c'est plus précisément dans quel pays? C'est au Koweït, en Arabie Saoudite ou?
Elles sont réparties au Koweït, Arabie Saoudite et d'autres en Iran.
Comment est-ce qu'elles sont traitées là-bas?
Mais elles sont traitées, mais écoutez, je crois quand même que d'abord, quand vous parlez, elles n'ont pas de protection juridique. Le contrat, c'est un contrat qui est irrégulier. Parce que la plupart de ces femmes-là quittent ici illégalement et illicitement par les réseaux qui opèrent dans la clandestinité. Et là-bas, il n'y a pas de protection juridique. Elles travaillent plus de 14 heures par jour, ce qui n'est pas conforme au statut de l'Organisation internationale du travail. Elles sont violées, elles sont harcelées. Il y a la retenue de leur salaire. Elles travaillent pendant 2-3 ans. Finalement, elles se retrouvent nulles. Au retour même, certaines femmes sont déjà arrivées au Togo ici sans même avoir un rond. Donc c'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation humaine sous forme moderne, mais je vous assure que les pays du Golfe sont des pays à risque, donc qui sont non recommandables.
Mais en fait, ça ne touche pas que le Togo, parce que le phénomène va jusqu'au Sénégal, au Mali. Beaucoup de jeunes veulent aller dans les pays du Golfe.
Oui, je crois que nous, ce que nous allons essayer de faire, nous allons procéder à une pétition que nous allons adresser à l'Union africaine. Et il va falloir quand même que l'Union africaine se penche sur ce sujet, parce que le phénomène se généralise. Et on ne peut pas accepter que nos compatriotes, que les Africains puissent aller mourir dans de telles situations. Je crois quand même que ce qui se passe aussi doit être discuté et doit être dévoilé comme aujourd'hui on parle de l'immigration clandestine.
Le pasteur Edo Tomi, président du mouvement Martin Luther King à Lomé. La Minute Éco, John Linden.
L'Afrique comptera deux fois plus de consommateurs aisés que le Royaume-Uni en 2020. C'est ce qu'a révélé une étude publiée par le cabinet de conseil Boston Consulting Group. L'étude table sur l'important vivier de consommateurs optimistes que compte le continent qui seront de plus en plus connectés. Dans un communiqué rapporté par l'agence APA, la compagnie d'aviation éthiopienne ASKY a réalisé des bénéfices nets de 2,2 milliards de francs CFA en 2015, devenant la première compagnie aérienne de la sous-région à connaître un tel succès dans un contexte particulièrement difficile où, selon l'Association internationale du transport aérien, les compagnies aériennes en Afrique ont enregistré une perte globale de 700 millions de dollars en 2015. Un accord de financement de 40 millions de dollars a été signé entre la Guinée et la Banque mondiale. Cet appui budgétaire devrait permettre de financer de nouveaux projets. L'accord a été signé par Malado Kaba, ministre guinéenne de l'économie, et Rachidi Radji, représentant de la Banque mondiale.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Quelles seront les conséquences possibles en Afrique du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Les accords commerciaux en seront-ils affectés? Y aura-t-il des changements à l'aide au développement? Le Brexit peut-il tout de même offrir des opportunités à l'Afrique? Y a-t-il également une dimension politique qui pourrait affecter le continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h15.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albotson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.